Donc j'interviendrai tout à l'heure pour vous présenter quelques réalisations qui sont faites dans le cadre de cette association sur des écoles et auprès de personnes.
Bonjour à tous, Daniel Clairaut, donc je me présente, j'appartiens au centre de documentation, qu'on appelle le CDDP, départemental, donc pour accompagner les enseignants au niveau des TIS, on appelle ça les TIS puisque c'est la technologie, l'information, la communication, mais déclinée pour l'enseignement, donc on a pris le TIC, on a mis un E, ça donne TIS, donc dans les pratiques d'enseignement, donc moi j'interviens, je dirais, vraiment en aval, hein, par rapport à tout ce qui est déploiement logiciel, déploiement matériel, hein, c'est plus dans les usages. Voilà.
Bonjour, je suis Bruno Coudouin, donc je suis l'auteur du logiciel éducatif J'ai compris, que j'ai en 2000, et donc qui est utilisé dans un nombre de distributions Linux, et aussi qui est disponible sur Windows, utilisé dans le monde entier. Donc je travaille aussi sur des projets, un peu plus récemment sur les projets d'intégration de J'ai compris, sur les nouvelles plateformes éducatives que sont les projets de type LPC ou Classmate, donc qui consistent à fournir des ordinateurs portables pour les enfants pour qu'ils puissent vraiment s'accaparer de la technologie et développer des nouveaux usages et des nouvelles pratiques au niveau de l'enseignement, surtout pour les pays aujourd'hui pour les pays du tiers-monde. Sachant que ce type de technologie pourrait aussi avoir un intérêt par chez nous, sans aucun problème. Voilà, donc si vous avez peut-être vu l'ordinateur en rentrant, le petit ordinateur vert, avec les petites antennes, c'est celui-là. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Thomas Petazzoni. Donc, je m'occupe d'une part d'une association qui s'appelle Tout Libre, qui œuvre à Toulouse pour la promotion des logiciels libres auprès de grand public en général. Donc on organise divers événements pour faire connaître le logiciel libre et son enjeu. Et d'autre part, je suis membre du conseil d'administration de l'April. Je pense que Sébastien me dira deux mots. Brièvement, c'est l'association nationale de référence en matière de promotion et de défense du logiciel libre. Donc c'est une association qui commence à être importante puisqu'il y a 1800 adhérents, une cinquantaine d'entreprises et une cinquantaine d'associations qui sont membres, dont des grosses entreprises comme Sun, comme 9CGTL et d'autres, et des associations de promotion du logiciel libre ou dans d'autres domaines, et donc plus de 1600-1700 adhérents, personnes physiques, donc, qui souhaitent soutenir cette association pour qu'elle puisse continuer son travail de promotion et de défense du logiciel libre. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Jean Peyratou, je suis instituteur à Bordeaux, dans les Bordes de l'Est, et donc depuis une dizaine d'années maintenant, je m'intéresse aux logiciels et aux ressources libres pour l'éducation, et en particulier pour ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire au-delà des aspects enseignement, tout ce qui est milieu associatif, y compris vis-à-vis des bibliothèques, des maisons de retraite, tout ce qui est. Donc, je m'occupe d'une association qui s'appelle Sidéral. Alors, je fais grâce à l'acronyme, mais les deux L et E à la fin, c'est logiciel libre pour l'éducation. C'est une association qui était montée en 2002, dont parmi les fondateurs, notamment l'April et l'AFU, qui sont les deux principales associations au niveau national, et puis des collectivités, des associations, des particuliers. On essaie de promouvoir toutes les solutions, logiciels et ressources intéressantes au secteur de l'éducation populaire, donc notamment, évidemment, j'ai compris dont on vient de parler, les solutions serveurs clients, vous avez vu à l'entrée Paginux que présente Jean-Louis. Et puis, on travaille aussi sur les rencontres mondiales de logiciels libres sur le domaine, sur le thème éducation populaire. Et donc, cette année, les rencontres mondiales de logiciels libres, elles ont lieu à Mont-de-Marsan, donc c'est pas loin, c'est facile de venir à Mont-de-Marsan, là, à Amiens, Dijon, Metz, où on était les années précédentes. Et ça a lieu du 1er au 5 juillet de cette année 2020. Voilà. Et donc, je vous convie à vous y intéresser.
Bonjour, donc je suis Sébastien Dino, le secrétaire de l'April que Thomas vient de vous présenter. Bon, il vous l'a présenté, donc je ne vais pas rajouter grand-chose, hormis que l'April existe depuis 1996, donc nous commençons à avoir pas mal d'expérience et pas mal de recul, que nous sommes devenus un partenaire de référence avec un certain nombre d'institutions telles que le Forum des droits de l'Internet, et que nous essayons de promouvoir le libre dans les différentes sphères de la société, que ce soit évidemment le grand public, ce qui explique notre présence ici, mais aussi l'éducation nationale, les entreprises, les associations, les ministères, etc. Je crois que pour l'instant, c'est tout ce que je vais dire. Je vais laisser la parole à la personne.
Donc, bonjour, Jonathan. Je vous présente Libelty, qui est un organisme de formation spécialisé dans les logiciels libres, donc qui est installé, qui a été créé sur Montpellier, qui est présent aussi en Multipyrénées sur Albi. Je représente aussi à travers l'entreprise, à travers moi, donc différentes associations, comme l'association Drôle de Montpellier, l'association Libre-Star, et une association un peu plus dans la région nationale, qui est la Dulacte. Donc, je vous présenterai sur la partie collectivité tout à l'heure.
Comme il est indiqué sur le programme, l'après-midi prend la forme d'une table ronde au cours de laquelle auront lieu trois interventions. Et donc au long des interventions et contre les interventions, vous aurez la parole pour intervenir dans le débat et interroger les différentes personnes qui sont présentes. Donc, j'ai été chargé de réaliser cette première intervention et donc d'improviser cette introduction. Donc, pour démarrer les différentes interventions, cette première va essayer de présenter ce que sont les logiciels libres en très peu de temps. Donc, c'est assez difficile d'en parler en si peu de temps. La présentation donnera seulement un éclairage sur les points principaux. Et je vous invite, si l'un ou l'autre de ces points vous intéresse plus particulièrement, à vous interroger ou même à venir en discuter avec les personnes, les animateurs de LibreClic pendant l'après-midi. Donc quand on parle de logiciels libres, on parle de logiciels qui offrent à tous leurs utilisateurs quatre libertés fondamentales. Donc, quatre libertés. La première, celle d'utiliser le logiciel pour n'importe quel usage. Donc ça peut paraître étonnant de s'intéresser à cette liberté-là, mais la plupart des logiciels que les gens utilisent récupèrent quand ils achètent un ordinateur, n'offrent en général qu'une liberté d'utilisation limitée, sur un seul ordinateur, dans des conditions très précises, etc. A l'inverse, les logiciels libres offrent une liberté d'utilisation totale, sur autant d'ordinateurs qu'on le souhaite, dans toutes les conditions possibles. C'est la première liberté. La deuxième liberté, c'est celle de copier le logiciel. Donc on a l'autorisation d'en faire autant de copies qu'on souhaite pour le donner à son voisin, pour le donner à sa grand-mère, à sa tante, à ses amis, aux camarades à l'école, etc., etc. On peut les copier de façon illimitée, en toute légalité. La troisième liberté, c'est celle d'étudier. Donc d'étudier comment fonctionne le logiciel, comment il marche, qu'est-ce qu'il fait exactement à l'intérieur. Donc le logiciel libre, tous les logiciels libres sont transparents, leurs recettes de cuisine est disponible pour tous, n'importe qui peut voir comment ça marche et donc acquérir des connaissances. Et enfin, la quatrième liberté, c'est celle de le modifier, de modifier le logiciel. Un logiciel n'est pas quelque chose d'inerte, de figé, c'est quelque chose qu'on peut améliorer, corriger des erreurs, des anomalies, mais aussi ajouter des fonctionnalités, faire des améliorations diverses et variées. Et on peut évidemment redistribuer ces modifications. Donc on peut redistribuer ces modifications pour que d'autres en profitent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les quatre libertés fondamentales du logiciel libre, qui ont été définies, formalisées par un chercheur américain qui s'appelle Richard Stallman au début des années 80. Et donc depuis le début des années 80 et même avant, même si le mot logiciel libre n'existait pas, c'était déjà quelque chose qui se pratiquait, Richard Stallman a un peu formalisé cette idée de logiciel libre en donnant cette définition. Donc depuis le début des années 80, tout un mouvement s'est constitué autour de cette idée et donne aujourd'hui un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, pour clarifier cette idée de logiciel libre par rapport à d'autres types de logiciels que vous avez peut-être entendu parler, comme les freeware ou les shareware, donc c'est ces logiciels gratuits qu'on peut récupérer sur Internet, etc. Je propose un peu de clarifier les diverses libertés. Alors, d'abord, celle d'utiliser. Donc, pour un logiciel libre, on a dit qu'effectivement, elle était illimitée. Dans le cas des freeware, donc ces logiciels gratuits qu'on appelle parfois gratuiciels, en général, on peut les utiliser également sans trop de contraintes. Dans le cas du logiciel propriétaire traditionnel, comme le système d'exploitation de la firme Microsoft ou le logiciel de retouche photo de la firme Adobe, bon, là vous avez un droit d'utilisation limité à un seul ordinateur et avec souvent des restrictions. Ensuite, le droit de copier. En général, pour les logiciels gratuits comme les freeware ou les logiciels en démonstration comme les shareware, vous avez un droit de copie que vous n'avez évidemment pas dans le monde du logiciel propriétaire. Il est interdit de faire une copie de Windows ou de Mac OS X pour le donner à votre voisin, à votre camarade. Et évidemment, dans le monde du logiciel libre, vous avez le droit de les copier. Étudier. Seul le logiciel libre vous donne la possibilité de comprendre ce que fait le logiciel. Alors, cette liberté-là, elle peut vous paraître pas forcément très intéressante en premier abord, parce que ça nécessite des compétences techniques que les informaticiens ont pour comprendre ce que fait le logiciel et éventuellement l'améliorer. On va voir que même si tout le monde ne peut pas directement bénéficier de cette liberté-là, elle a une importance fondamentale et participe à un des nombreux intérêts du logiciel. Et enfin, dernière liberté, celle de modifier. Là aussi, seul le logiciel libre vous permet de modifier, d'améliorer, etc. et de redistribuer ces modifications, là où toutes les autres formes de logiciels ne le permettent pas. Donc voilà, c'est pour dire que freeware, logiciel libre, c'est absolument pas la même chose. Un freeware, c'est guère plus qu'un logiciel propriétaire gratuit. Donc effectivement, pour vous, vous pourrez le récupérer gratuitement sur votre ordinateur, mais tout un tas d'avantages du logiciel libre passeront à la fin. Enfin, dernière chose, le prix. Le logiciel propriétaire, donc le système d'exploitation Windows est payant, mais il existe aussi des logiciels propriétaires gratuits. Par exemple, les freeware, c'est un exemple de logiciel propriétaire gratuit. Et à côté de ça, les logiciels libres peuvent soit être gratuits, soit être payants, selon la façon dont vous le récupérez, selon les services qui vous sont proposés à côté. Donc en général, beaucoup de logiciels libres peuvent être récupérés sur Internet pour le simple prix de la connexion, mais d'autres logiciels libres sont payants parce que vous avez besoin de support, de formation et d'autres choses. Donc la notion de liberté, la notion de logiciel libre fait pas référence au prix, mais à la liberté. Enfin, quand on parlera de logiciel libre, on parlera bien de liberté. Donc qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ces logiciels libres plus de 25 ans après la création le lancement du mouvement par Richard Stallman? Ça donne déjà. D'abord, les logiciels libres ont commencé leur succès et leur ascension dans le monde de l'informatique que vous ne voyez pas. Pour donner quelques idées, plus de la moitié des serveurs web, donc les ordinateurs qui font fonctionner le web, utilisent des logiciels libres. Même si chez vous, vous n'utilisez pas encore ces fameux logiciels libres, mais que vous surfez sur Internet, vous en avez en réalité déjà utilisé. De la même façon, une bonne partie des serveurs qui font fonctionner le système de courrier électronique d'Internet utilisent des logiciels libres. De la même façon, des petites machines que vous pouvez avoir chez vous, comme la Freebox, fonctionnent également avec des logiciels libres. Voilà, c'est les logiciels libres dans le monde du serveur d'entreprise ou de l'embarqué. C'est déjà une réalité, c'est déjà quelque chose qui fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années. Ensuite, les logiciels libres aujourd'hui, c'est aussi des milliers d'applications, donc là plus pour les utilisateurs comme vous et moi, des milliers d'applications soit très générales comme des traitements de texte, OpenOffice.org par exemple, une suite bureautique, navigateur web, logiciel de retouche photo, etc. Mais aussi des applications très spécialisées, et je pense que la personne qui parlera de la DUNAC parlera d'applications beaucoup plus spécialisées destinées aux collectivités, qui a un ensemble de domaines couverts par le logiciel libre qui est assez vaste et s'élargit de plus en plus pour couvrir des domaines de plus en plus pointus. Et enfin, donc c'est des applications comme Firefox, comme OpenOffice.org que vous pouvez utiliser sur des systèmes comme Windows ou comme Mac OS X, donc les systèmes que vous utilisez peut-être déjà aujourd'hui, mais c'est aussi un système complet, entièrement libre, qui s'appelle GNU Linux, qui peut remplacer l'ensemble des logiciels que vous avez sur votre ordinateur et utiliser donc que des logiciels. Donc, pour peut-être ouvrir un peu plus le débat et la discussion, pourquoi s'intéresser aux logiciels libres ? Il y a plusieurs. J'y vois plusieurs intérêts et les intérêts sont en sens multiple. Le premier aspect, c'est celui des qualités éthiques et sociales. Quand Richard Stallman a lancé, formalisé ce concept de logiciel libre, il considérait que le logiciel, c'est une forme de connaissance, scientifique, parce que c'est un chercheur en informatique donc, qui baignait dans le milieu, dans la tradition scientifique de partage, publication des papiers, publication des expériences, etc. Travaille à partir du travail des autres. Donc pour lui, il fallait que les logiciels soient partagés, qu'on puisse les modifier, les réutiliser, etc., pour construire avec le travail des autres. Et pour lui, c'est déjà quelque chose de très important. Et il résume souvent l'esprit du logiciel libre, en tout cas quand il vient en France. Il parle très bien français. Il dit, je peux résumer le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité. Il fait évidemment référence à la devise de la République. Liberté, parce que l'utilisateur est libre de faire ce qu'il veut avec le logiciel, l'utiliser sur autant d'ordinateurs qu'il le souhaite, le modifier, etc. Égalité, parce que tous les utilisateurs ont les mêmes droits. Enfin, fraternité, parce qu'on peut donner à son voisin le logiciel, lui proposer des améliorations, etc. Il y a toute une démarche, un état d'esprit, d'entraide, de solidarité qui est sous-tendu par le logiciel libre. Ça, c'est déjà un premier aspect fondamental. Ensuite, un deuxième aspect fondamental, c'est la transparence. Comme je l'ai dit, on peut étudier les logiciels libres, voir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les opérations qu'ils réalisent. Et donc notamment, ça permet, par exemple, de vérifier qu'un logiciel ne fait pas à votre insu des opérations que vous ne souhaitez pas qu'il fasse, comme envoyer des informations confidentielles sur Internet, ou violer votre vie privée en envoyant ceci ou cela à droite à gauche. Donc là, le fonctionnement du logiciel est totalement transparent. Donc, à ce jour, il n'existe pas de logiciel libre qui fasse ça, puisque ça se saurait immédiatement et personne n'utiliserait ce logiciel. Donc d'un point de vue préservation de votre vie privée, ça apporte énormément. En termes de sécurité, les logiciels libres ont également fait leurs preuves depuis de nombreuses années. Donc si vous utilisez un système comme GNU Linux, il n'y a aujourd'hui pas de problème de logiciels espions, de virus, etc. Et enfin, cette transparence, elle a aussi un intérêt pour vos données, pour les informations que vous créez avec votre ordinateur. Elles sont stockées, et la façon dont sont stockées ces informations, elles sont structurées. C'est quelque chose de très important, parce que c'est quelque chose qui détermine si vous allez pouvoir, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, réutiliser ces informations. Et si elles sont stockées dans une structure qui n'est connue que d'une entreprise qui va peut-être fermer, ou qui va changer de logiciel, ou qui va changer de version, ou pour tout un tas d'autres raisons, si vos informations sont stockées dans un format, dans une structure qui est complètement opaque, vous risquez d'avoir des problèmes. A l'inverse, les logiciels libres étant totalement transparents, la façon dont ils stockent les informations est transparente également, et donc on a la garantie de pouvoir réutiliser ces informations dans 5 ans, dans 10 ans, d'écrire d'autres logiciels qui utilisent les mêmes informations, etc. Donc ça donne une indépendance des données par rapport au logiciel et donc de l'utilisateur par rapport à son logiciel. Donc il y a tout un tas d'aspects comme ça qui découlent de la liberté d'étudier, qui ne touchent pas directement tout le monde, cette liberté d'étudier, mais ces aspects-là ont des retombées pour l'ensemble des utilisateurs de logiciels. Voilà. Dernier aspect, puisque j'en aurais beaucoup d'autres à développer pour parler de logiciels libres, j'essaie de mettre sur les trois qui me paraissaient l'aspect économique, mais qui se décline à mon avis plusieurs aspects. Évidemment, l'aspect licence, puisque la plupart des logiciels libres, pas tous, mais la plupart, en tout cas ceux destinés au grand public, sont disponibles librement sur Internet, leur coût d'acquisition est très faible. Donc ça permet pour un particulier de s'équiper légalement et pas cher en logiciel de qualité. Et pour des collectivités, pour des administrations, pour des entreprises qui ont des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers d'ordinateurs équipés, d'économiser en licence. Ça, c'est un aspect économique. mais d'autres, un d'autres aspects, c'est celui de la réutilisation, de la mutualisation. Puisque ces logiciels peuvent être modifiés, ben, n'importe qui, une entreprise, une organisation, peut récupérer un logiciel libre qui correspond presque à ses besoins et le faire modifier par des personnes du métier pour qu'il corresponde précisément à ses besoins. Donc, plutôt que de développer une solution logicielle à partir de zéro, en faisant tout, on va avoir la possibilité d'utiliser des briques logicielles libres qui existent déjà, les améliorer pour que ça corresponde aux besoins de l'entreprise ou de l'administration. Là, je pense qu'effectivement, on a l'acte. Tu en parleras après. Donc ça, c'est un autre aspect intéressant, puisque ça fait faire aussi des économies, et ça paraît plus rationnel, plus logique de réutiliser l'existant. Et donc, aussi, un autre aspect des logiciels libres, c'est qu'ils sont... ils sont créés de manière communautaire par des bénévoles, des entreprises, des salariés de laboratoires de recherche qui communiquent au travers d'Internet. Et donc, il y a une forme de mutualisation, puisque chaque groupe, chaque entreprise, chaque laboratoire de recherche essaye de ne pas développer le même logiciel qui fait la même chose, mais de travailler ensemble pour faire un seul outil pour répondre aux besoins du plus grand nombre de personnes. Donc il y a un esprit comme ça de mutualisation dans le monde du logiciel libre qui consiste à trouver les personnes qui ont des besoins qui se rejoignent et à travailler ensemble pour ne pas utiliser les énergies. Donc voilà pour trois axes d'intérêt majeur du logiciel libre. Il y en aurait d'autres à décliner, on pourra peut-être en parler au fil de la discussion. Donc pour conclure cette petite introduction, j'aime à penser que le logiciel libre, finalement, c'est en quelque sorte une utopie réalisée, puisque au début des années 80, pour celui qui lance un tel projet, dire voilà, on va concurrencer les plus grandes entreprises en réunissant des informaticiens qui, à l'époque, faisaient ça surtout sur l'entente libre, et encore aujourd'hui, c'est beaucoup d'informaticiens sur l'entente libre qui travaillent là-dessus, et d'autres d'ailleurs, pas que des informaticiens, des gens qui font la traduction, les graphistes, qui viennent en parler dans des conférences, etc. Donc il y a beaucoup de façons de contribuer. Et donc, des bénévoles, des salariés, etc., qui se mettent ensemble et qui arrivent à construire quelque chose qui va donner un résultat qui est aussi bon, voire parfois meilleur que les logiciels produits par des très grandes entreprises. Et je trouve que c'est quand même un projet humain qui est agréable à regarder rétrospectivement, de se dire, voilà, l'humanité peut encore... se réunir et construire quelque chose de pertinent, qui fonctionne et qui est utile au progrès de la société. Voilà pour cette introduction. Je ne sais pas à qui je vais passer la parole, au public ou aux personnes. Est-ce qu'on enchaîne directement les interventions ou est-ce qu'on laisse peut-être la parole aux observations? Voilà les observations. Si vous avez des questions. Effectivement, donc là, je ne sais pas qui tu veux répondre, Sébastien.
Disons que là, vous touchez à une question, au modèle économique du libre. Quel est le modèle économique du libre? C'est une question très importante pour beaucoup de sociétés et éventuellement d'autres acteurs de la société, la société civile. Alors, la réponse n'est pas unique. Les multiples, vous avez des réponses très variées qui vont d'un modèle de vente, de distribution, sachant que le logiciel est libre, mais on va vous vendre une boîte avec un petit livre qui va vous expliquer comment installer, comment faire vos premiers pas, et au-delà de ça, un support téléphonique, support par mail ou autre. Donc ça, vous pouvez par exemple avoir ce modèle là, vous pouvez avoir des modèles entièrement basés sur le service, sur la personnalisation, vous pouvez avoir des modèles basés sur, comment dire, cela dépend de votre activité en fait. Si vous êtes éditeur de logiciels, vous n'allez pas avoir du tout le même modèle économique que si vous êtes vous avez d'autres types de prestations et que l'informatique est juste un outil. Par exemple, j'ai travaillé dans un bureau d'études en hydrologie qui développait des logiciels. Le logiciel était juste un outil. L'objet de ce bureau d'études, c'était l'hydrologie. Donc, le logiciel, dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il soit gratuit et toute l'activité est sur le service. Vous voyez,
Vous parliez d'Open Office, donc pour prendre cet exemple-là, il y en a plein, mais il est intéressant parce qu'au démarrage, c'est une problématique entièrement privée. Donc, société Sun Microsystems, ils vendent des gros serveurs qui valent plusieurs millions de dollars, leur concurrent principal, Microsoft. À l'époque, ils vendent donc leur serveur Sun, c'est le système qui s'appelle Solaris, et leurs clients veulent une suite bureautique dessus, et ils veulent la suite bureautique de Microsoft. Donc Sun, pas content, puisqu'ils sont obligés de payer des royalties à leur principal concurrent, et c'est pas possible. Donc il faut qu'on développe une suite bureautique qu'on va mettre sur nos propres systèmes. Ils mettent un paquet d'ingénieurs et un paquet de millions de dollars sur la table, et ils commencent à développer très rapidement. Ils se rendent compte que c'est titanesque, et qu'il faut un nombre d'années ingénieurs qui est tout à fait hors de leur portée. Donc ils changent leur fusil d'épaule, ils regardent ce qui existe sur le marché. À l'époque, il y avait une petite boîte allemande qui s'appelait Star Division, qui faisait déjà une suite bureautique. Donc à l'époque, c'était sous DOS, ce n'était pas du tout graphique, mais ça marchait déjà très bien. Ils rachètent Star Division, et avec leurs ingénieurs, ils mettent au point la première version de Star Office. Ça marchait déjà vraiment pas mal. Et puis ils se rendent compte que malgré le fait qu'ils étaient partis déjà de nettement plus haut que de zéro, bah, ils n'avaient pas les moyens financiers pour mettre en place le développement de quelque chose d'aussi abouti que l'était Microsoft à l'époque. Coup de génie, coup de culot, je ne sais pas trop, mais enfin, en tout cas, chapeau. Sundy, bah, écoutez, voilà, on met le code disponible auprès de la communauté en espérant que les interactions entre la communauté logicielle libre et bien sûr le travail de nos ingénieurs, puisqu'on peut les rémunérer, va nous permettre au mieux d'avoir une suite bureautique efficace qui va fonctionner sur le système, mais surtout qui va contribuer à diminuer l'arrosage permanent d'argent vers notre principal concurrent, qui pourrait même se permettre de donner ses machines et que l'argent revienne par ailleurs pour chaque fois qu'une machine est vendue quelque part dans le monde, de sorte à engranger ça. Donc ça a bien marché et on a passé d'une situation, je caricature, on n'a pas le temps, hein, mais on est passé d'une situation où il y avait un produit propriétaire Star Office et puis ça, entre guillemets, copie, c'est pas si c'est comme ça, hein, mais un produit libre, Open Office qui venait derrière. Maintenant la situation est inversée. Le produit qui est plus avancé, novateur, c'est Open Office, et Star Office est la déclinaison d'Open Office dans le domaine du service. Autrement dit, avant de simplifier encore, vous avez exactement le même produit. Si vous êtes responsable informatique d'une grosse boîte, vous ne pouvez pas prendre responsabilité personnelle, mais vous prenez Star Office, vous avez Sun Microsystems avec ses formations, etc. qui vient derrière. Et puis, petit à petit, on a vu sur les 2-3 dernières années, petit à petit, on arrive à avoir un grand Open Office, mais tout ça est en synergie. Si aujourd'hui vous retiriez la totalité de la puissance de développement de Sun et les équipes de Open Office, clairement, on est mal. Mais tout le monde y a intérêt. À l'opposé complet de cet aspect-là, démarche privée et essentiellement commerciale, il y a un certain nombre de produits qui partent sur de l'argent public. C'était souvent universitaire, il y a maintenant des financements des collectivités locales, et il y a des besoins humains. Donc, par exemple, fabriquer un jeu, fabriquer un navigateur, fabriquer un outil, un besoin, c'est amusant, c'est nécessaire, il y a des gens qui peuvent faire. Fabriquer un outil de gestion de place de particules de cimetière, ça n'intéresse personne. Besoin d'abandonner un certain nombre d'argent, on arrête de payer de ce côté, on met de l'argent.
Juste une remarque, c'est que la question posée sur les logiciels complexes et que ce qui est évoqué là, et c'est tout à fait vrai, ça marche bien pour des logiciels où il n'y a pas trop de briques. Mais quand on arrive à des systèmes de la complexité d'une structure robotique, évidemment, la limite est vitale.
Je voudrais juste rajouter un petit détail. Ce qui valide le modèle économique du libre, c'est que si on regarde autour de cette table, probablement que les gens qui sont là ont surtout été attirés au départ par les aspects éthiques, les aspects libre diffusion de la connaissance. Mais maintenant, que voyons-nous apparaître ? Des sociétés qui se moquent de l'éthique. Une société, nous sommes d'accord, une entreprise, elle est née pour faire de l'argent. Et ces entreprises choisissent. On a par exemple deux exemples à Toulouse qui mettent en jeu des acteurs mineurs comme Airbus ou autres grosses SS2I comptant plusieurs dizaines de milliers d'employés qui se disent tiens, on va réaliser un logiciel et le bon modèle pour le réaliser, le seul qui peut marcher au sein de ce consortium, c'est un logiciel libre. Et lorsque vous voyez des entreprises qui délibérément choisit ce modèle-là alors qu'elle se moque éperdument des aspects éthiques, que la seule chose qui les intéresse, ce sont les aspects économiques, vous dites le libre est un bon modèle. Et c'est un bon modèle sociétal, c'est un bon modèle économique. Voilà, c'est tout.
Pour peut-être rajouter encore un détail sur cet aspect-là, il a été question de modèle économique. Une chose que j'aime bien à rappeler, c'est les fondements. Les fondements du mouvement du logiciel libre, c'est pas de se poser la question est-ce qu'il y a un modèle économique viable ou pas. Le fondement, c'est de se dire il faut que les logiciels offrent 4 libertés à leurs utilisateurs pour qu'ils puissent bénéficier de ces libertés-là, que la vie quotidienne de l'utilisateur avec l'informatique, notre vie à tous qui tourne de plus en plus autour des nouvelles technologies, etc., se passe dans de bonnes conditions, il faut que les logiciels soient libres. Après, si des modèles économiques existent et certains sont en place et semblent bien fonctionner, Sébastien vient de donner un exemple, tant mieux. Mais les fondements du logiciel libre, c'était pas de se poser la question est-ce que ça marche d'un point de vue business ou pas. C'était des fondements politiques, éthiques, philosophiques, et pas des fondements de déraisement de type économique. Cela étant, depuis, les choses ont bien évolué, et là où au départ c'était principalement des bénévoles, aujourd'hui c'est vraiment un ensemble, une communauté qui mélange des contributions bénévoles. Donc il y a des projets qui ne fonctionnent qu'à partir de bénévoles, par exemple le projet Debian, qui est une distribution Linux qui compte plus d'un millier de développeurs. Donc, c'est un projet quand même significatif en termes de consoeurs. Et bien il ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Donc, ça existe encore aujourd'hui, et il y a énormément de logiciels libres qui sont développés sur ce modèle-là, qui au moins ont démarré sur ce modèle-là. Et je pense que OpenOffice est un peu le contre-exemple finalement, parce qu'il y en a relativement peu des logiciels comme ça, il y en a quand même quelques-uns, mais relativement peu de logiciels libres qui sont issus de la libération de logiciels qui étaient précédemment propriétaires. Et Firefox est l'autre contre-exemple, puisque c'est un peu suivi le même cheminement finalement. C'était Netscape, qui était au départ un navigateur web propriétaire, qui devant l'échec de ce navigateur face à Internet Explorer qui était livré d'office avec les systèmes d'exploitation de Microsoft, Netscape a décidé de libérer le code source, d'ouvrir le code source de Netscape à la contribution de la communauté et a donné un financement initial à une fondation qui s'appelle Mozilla pour développer le logiciel, et c'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir Mozilla Firefox et Mozilla Thunderbird. Là, ça c'est OpenOffice et Mozilla, c'est des projets qui sont issus de la libération de code de logiciels propriétaires, alors qu'il y a tout un tas d'autres de projets, j'ai compris par exemple, qui n'est fait que par des bénévoles, et seulement par des bénévoles depuis le départ. Il y a beaucoup d'autres logiciels libres qui sont développés selon ce modèle-là. Linux aussi. Pour Linux, qui est le cœur du système Linux, qui est aussi à l'origine un étudiant finlandais qui, pendant les longues nuits d'hiver finlandaises en 1991, avait besoin d'un petit système pour son ordinateur et a donc commencé à le développer, à le diffuser sur Internet. etc., a constitué une communauté de gens autour de ça, bénévoles, et aujourd'hui, il y travaille toujours, il est toujours gérant un peu du projet en quelque sorte, mais il a été rejoint par des contributeurs de son entreprise comme IBM, comme Google, comme SGI, comme Intel, comme AMD, enfin tous les grands noms de l'informatique, sauf peut-être Microsoft.
Ce qui est intéressant dans la démarche de différencier l'éthique et le modèle économique, c'est important parce qu'en fait, souvent, quand on parle des logiciels libres, des fois, on les associe au côté un peu altermondialiste. Il faut voir que l'avantage des logiciels libres, c'est vraiment, en dehors d'un modèle économique, c'est vraiment une philosophie parce qu'ils s'adaptent aussi bien au modèle ultralibéral, le logiciel libre, parce que le principe de créer de l'interopérabilité, c'est-à-dire de créer des standards mondiaux, de donner des codes sources, ben c'est l'hypercompétitivité mondiale. C'est-à-dire que vous mettez tous les logiciels en compétition à un même niveau et les entreprises doivent se faire une compétition à mort pour savoir, pour exploiter au mieux le logiciel. Donc si on met les logiciels libres à l'extrême, on se retrouve devant le libéralisme pur. Et de l'autre côté, dans le côté un peu altermondialiste, il y a la possibilité justement pour des associations, pour des bénévoles, pour des communautés de développer des applications librement parce qu'elles en ont envie, pas parce qu'il faut gagner de l'argent, mais parce qu'on en a besoin au quotidien, parce que c'est l'intérêt collectif qui prime. Et c'est vrai que même quand vous allez lire, si vous vous intéressez maintenant un peu, vous intéressez au logiciel libre, vous allez voir que des fois il y a toujours ces deux tensions dans le logiciel libre, parce qu'il y a vraiment l'intention entrepreneuriale, comme par exemple, je vois ici, symboliquement, donc je représente une société, donc une entreprise, où là l'intérêt, c'est un intérêt économique, comme on l'a très bien dit, quoi, une entreprise est là pour gagner sa vie, faire du chiffre d'affaires avant tout. Mais il y a aussi le côté éthique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au libre, même pour une entreprise par hasard. Donc c'est, il y a toujours ces deux tensions qu'on peut voir dans le logiciel libre, qui n'existent pas dans le logiciel propriétaire, et je pense que c'est une liberté, c'est une liberté qu'on a aujourd'hui et qu'il ne faut surtout pas perdre. Et ça, c'est vraiment le point fondamental. C'est cette liberté-là. C'est, aujourd'hui, on est encore libre de faire ça sur l'informatique, et on peut le faire quasiment nulle part ailleurs. Donc,
vous avez d'autres questions peut-être de passer à la prochaine intervention. C'est je sais plus dans quel ordre c'est prévu.
Donc je tiens à préciser que nettement moins bien réussi que celle d'avant au niveau de la présentation. Donc on va juste parler d'un sujet particulier, c'est les collectivités, institutions et les solutions libres. Donc la façon dont elles s'approprient les applications, les solutions libres. Donc juste pour vous montrer, j'ai volontairement juste mis en petit mon entreprise parce que c'est pas l'intérêt. J'ai dit, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour faire la publicité, c'est plutôt pour le côté associatif. Donc on fait partie, donc il y a trois associations qui sont là. La DULACT que je vais vous présenter dans un instant, HOL, qui est l'association pour le développement du logiciel libre mais à Montpellier, donc qui organise les journées du logiciel libre à Montpellier. Et Linux Town, qui est une association qui équivaut à celle d'ici, donc qui prône le développement des logiciels libres sur le Tarn, avec plutôt une association d'utilisateurs. Donc ils sont passionnés de Linux et on organise aussi des journées logiciels libres sur le Tarn. Donc, après. Qu'est-ce que c'est l'ADULACT ? L'ADULACT, c'est l'association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales. C'est donc une association le titre dit tout. Donc c'est les collectivités qui ont décidé, de se remettre ensemble pour créer, comme tout à l'heure on a dit, des logiciels métiers spécifiques. Donc toutes les collectivités territoriales font face aux mêmes problématiques, plus ou moins grandes en fonction de la taille de la ville, bien sûr, ou de la taille du territoire. Donc comme elles ont un intérêt commun, plutôt que de payer une solution à une entreprise externe qui va donc pour chaque entreprise, pour chaque collectivité faire payer une nouvelle licence, l'idéal étant d'essayer de développer une licence en commun, de développer une application en commun, de libérer la licence et au moins tout le monde peut l'utiliser, toutes les collectivités. Donc comme les grandes villes qui font partie à Paris, qui font partie de l'association de Toulouse, on a les Hauts, on a la ville d'Alpi, donc on a. Mais on a beaucoup de villes, de communautés, d'agglomérations, communautés de communes qui ont décidé d'adhérer à la DULAC parce que ça leur permettait de mutualiser et de faire en commun ce qu'ils étaient incapables de faire tout seuls. On a des applications, comme on parlait tout à l'heure, des applications de type l'Open Cimetière. Donc simplement gérer les concessions dans un cimetière, savoir la façon dont on va dire que telle concession appartient à telle personne. Et c'est un énorme travail qui intéressera peut-être pas beaucoup d'entreprises pour le développer, par contre qui intéresse toutes les mairies, même la petite mairie au niveau local. Donc là, c'est la ville d'Arles qui pilote ce projet. Donc c'est eux qui ont lancé, ce sont eux qui les premiers ont décidé d'investir dans ce projet et qui proposent après à la communauté d'intervenir, d'améliorer le projet et donc de le développer pour qu'il soit de plus en plus pertinent. Donc c'est la communauté de ville qui participe à ce projet-là, qui vont améliorer le projet, mais qui par contre le distribue à tout le monde. Toutes les villes peuvent le récupérer gratuitement. Après, donc, on a l'IMERI, donc c'était proposer un site web standard pour l'ensemble des mairies, pour qu'elles puissent utiliser ce site qui reprenait les grands besoins des mairies et qui reprenait, en plus qui respectait tous les standards internet, donc qui permettait à n'importe qui de pouvoir utiliser les salles, que ce soit les sourds, les aveugles, les malades, qui peuvent utiliser donc ces sites grâce à des logiciels spécifiques. Donc, ce qui est aussi un enjeu par rapport au logiciel libre, c'est de pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à l'informatique, ce qui est important. Donc pour donner un exemple de comment arrive ce type de projet, on va partir de... J'ai fait dans l'autre sens, c'est dommage, on va partir de là. Donc on va... La médiathèque, c'est un projet auquel j'ai participé. La médiathèque d'Albi avait besoin d'une solution pour gérer le cybercafé, la cyberbase à l'interne. Donc de proposer un accès à Internet aux utilisateurs de la médiathèque. Comme le responsable informatique avait une connaissance du libre et des logiciels libres, il a décidé de développer cette solution sous Linux. Donc utiliser Linux pour permettre de créer cette cyberbase, et une fois qu'il l'aurait finalisée, de la transmettre justement à la DULAC, donc de permettre à toutes les communautés, toutes les médiathèques d'utiliser cette technologie. Donc c'est là où on arrive sur le côté que c'est pas gratuit de créer ça, parce que on a une problématique et en face il faut trouver un logiciel, il faut développer une application qui puisse supporter justement de gérer un cybercafé avec tout l'aspect sécurité. Bon là j'ai mis des détails, c'est pour vous faire plaisir à ceux qui connaissent. Mais sinon c'est assez compliqué, ça demande un investissement financier de la part de la mairie pour pouvoir un développeur là, spécifiquement Eric Vernichon, donc, qui a amélioré l'OS Café pour en faire un OS spécifique. Donc c'est parti de ça. Comme l'OS Café était donné à la communauté, nous on l'a récupéré et on en a fait un OS spécifique pour gérer un pôle de cyberbase sur une médiathèque, avec tous les problèmes que cela pose. Sachant que Linux dans ce cas-là est une très très bonne solution, parce qu'en termes de réseau, de sécurité de réseau, de sécurité d'accès pour une médiathèque Linux, parce que c'est très très différent, si vous voulez, pour regarder une clé, pour un exemple. Donc c'est la médiathèque Pierre Almeric qui a développé ce projet en 2007 et maintenant est parfaitement viable depuis septembre et est utilisé régulièrement. Et il n'y a aucun utilisateur qui a fait la différence avec ce qu'il y avait. Alors qu'avant c'était une solution France Télécom qui a été développée très longtemps avant, qui leur avait coûté très cher, pour lequel ils payaient des licences. Et là ils n'ont pas fait de différence. Donc c'est vraiment un succès qui maintenant ils vont essayer de le diffuser. Juste avant. Un autre exemple, c'est la migration des postes vers OpenOffice. Donc la mairie avait une problématique, donc il fallait renouveler Office sur les différents PC, ce qui est très très cher parce que quand vous avez 900 postes, quand vous renouvelez les postes, il faut au maximum que tout le monde soit présent. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de compatibilité entre une version 2000 ou une version 2007, c'est difficile. Donc, ils se retrouvaient devant cette problématique-là. Ce qui est important de comprendre, c'est quand un responsable informatique se retrouve devant cette problématique-là, qu'est-ce qui fait qu'il va pencher vers le libre ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va accepter de prendre une solution libre ? C'est avant tout une volonté politique. C'est avant tout vraiment le maire ou alors l'élu local qui est en charge de l'informatique connaît déjà les logiciels libres, connaît leur intérêt d'un point de vue technique. Et là, ils sont carrément allés plus loin en rentrant ça dans l'agenda 21. Je ne sais pas si vous connaissez le logiciel libre. Donc ils ont mis vraiment le logiciel libre et le fait de migrer dans une démarche de développement durable. C'est conçu pour la mairie comme du développement durable. Ce qui est très important, la deuxième point qui est important quand on fait une migration, c'est l'appui technique. L'appui technique, c'est y a-t-il des gens qui, à l'interne, sont capables de soutenir une migration. C'est-à-dire qu'ils sont capables de connaître le problème de la migration, savoir utiliser le logiciel, donc refaire les installations, tout ça, ça peut laisser du temps et de l'argent. C'est important de savoir que c'est vraiment une question de se poser une vie. Et comme on l'a dit tout à l'heure pour ce microsystème, si vous appelez une entreprise qui le fait, si la responsabilité se transfère à l'entreprise, vous êtes responsable beaucoup plus cher. Et en échange, vous avez une sécurité. Et le point important, c'est alors là plus que tout le reste, et vraiment, c'est, je crois qu'à chaque fois qu'on va vers des problèmes de migration, vers OpenOffice qui est le PAB de la migration, c'est un truc le plus facile entre guillemets pour les fonds, sur lequel on peut changer. On ne change pas Windows, l'ordinateur, on change vraiment que le traitement de texte sur le tableau. C'est vraiment. Là, on a un mur un peu, c'est. Un mur humain, c'est. Oui, mais je comprends pas. Si je comprends pas, non, attendez, moi je me suis déjà mis à l'informatique, j'ai mis 5 ans à me mettre sur le Word Excel, j'ai plus envie maintenant de passer à OpenOffice. J'ai plus choses à faire, nouveau truc, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, j'ai l'impression que c'est horrible, que ça ressemble à rien. Un traitement de texte, c'est un traitement de texte, un tableur, c'est un tableur. Il n'y a pas de miracle entre les différentes distributions, il y a des boutons sur lesquels il faut cliquer qui sont différents. Donc ça, il y a vraiment un frein psychologique. Et le frein psychologique, c'est pour ça que c'est. Pour le contrer, c'est la volonté politique. Parce que si votre, en gros, dans votre entreprise ou dans votre collectivité, si votre directeur dit vous passez tous à OpenOffice, que vous soyez pour ou contre, vous y passez. Si maintenant vous dites aux personnes, est-ce que vous êtes d'accord pour passer dans des trucs qui ne conduisent pas, ils vont tous vous dire non, j'ai fait plein de trucs, je fais plein de trucs, tout ça. Donc là, on est vraiment, vraiment devant un frein, et ce frein, c'est là où on peut dire que le logiciel libre n'est pas gratuit, c'est que quand on migre vers OpenOffice, il faut former les gens. Et il faut les former à l'utilisation. Donc c'est un énorme coût. On va dire la première et la deuxième année. On va dépenser de l'argent pour que les personnes prennent en main les logiciels, les suivent bien, fassent bien le comparatif entre le pack Windows et OpenOffice, qu'ils comprennent bien les équivalences. Donc c'est beaucoup de travail de fond. C'est beaucoup de communication de la part du service informatique et des responsables de service pour dire vous inquiétez pas, on va être là, on va vous suivre. Et à la fin, ça donne une meilleure utilisation. Parce que souvent, Word, Excel, c'était, on a été lancé dedans et on a appris sur le terrain. Alors que là, on revient à zéro et on va vous dire vous, ce que vous avez acquis, vous le savez. Ça ne va pas disparaître d'un coup, c'est pas une rupture radicale, on va passer à une course. Vous allez utiliser ce que vous savez, et en plus, grâce à la formation, on va vous approfondir ce que vous savez, et on va vous montrer des nouvelles techniques. Vous allez gagner du temps, et c'est là où la communication, c'est important. Savoir bien communiquer en interne, c'est un peu de la psychologie, mais c'est rassurer les gens grâce à la formation. Et donc, il faut savoir que cette migration d'OpenOffice, à l'heure actuelle, c'est définitif. C'est-à-dire que vous avez l'agenda national, vous avez énormément de mairies, énormément de collectivités territoriales, vous ne faites pas, à tel point que de toute façon, ça va agir maintenant sur le secteur. Parce que toutes les entreprises, j'ai discuté justement avec les responsables informatiques de la mairie d'Albi, c'est que maintenant, quand ils vont demander un appel d'offres pour l'entreprise, ils vont leur envoyer l'appel d'offres avec OpenOffice. Donc la mairie devra avoir les pieds vers le Grand Office. Donc on comprend que le fait que des grandes institutions, le ministère des Finances, tout ça, aient décidé de faire des migrations, entraîne automatiquement au niveau des domaines privés l'obligation de migrer aussi vers le Grand Office. Sachant que Open Office vous permet d'utiliser les documents de Microsoft. Ce qu'il ne fait pas, Word Excel ne peut pas, ne permet pas d'ouvrir Open Office. Donc c'est ce qui fait vraiment la force de cet outil. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'il y a une dynamique et que la dynamique, une fois n'est pas coutume, a été lancée par les administrations, par les collectivités locales, vers justement une migration du cette présentation a été faite sur Open Office. C'est quand même aussi. C'est juste pour vous donner l'idée que ça existe, etc. C'est pas. Il y a deux petits liens que je voudrais vous montrer. C'est pour aller sur le site de l'Adulac, pour ceux qui sont intéressés par l'Adulac. Là, dessus, Framasoft, si vous pouvez monter, dessus, vous avez la plupart des logiciels libres qui sont enregistrés, qui sont classés par catégorie. Et donc, dessus, si vous cherchez un logiciel libre sur une utilisation particulière, vous le trouverez sur ce site. Il y en a 1300 et c'est très bien parce que ils sont bien répertoriés en fonction des outils et des fois on découvre des logiciels libres assez impressionnants.
Avant de laisser la parole au public, je voudrais juste préciser quelque chose en corollaire de ton intervention. C'est que Albi maintenant utilise OpenOffice, certes, mais Albi, au niveau français, ce n'est qu'une ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'inscrit dans une démarche nationale qui vise à préconiser des standards ouverts. Le format de fichier utilisé par OpenOffice est désormais un standard. Et il y a un projet en gestation qui s'appelle le référentiel général d'interopérabilité. Qui devrait aboutir normalement en 2008. Et selon le RGI, qu'est-ce que c'est ? C'est selon le type de besoin, vous avez besoin d'une image, vous avez besoin d'un fichier texte, d'un document de type tableur, etc. Vous devez utiliser tel format. Et c'est une préconisation qui va être imposée à toutes les administrations françaises, en fait. Et dans le RGI, vous avez pour le traitement de texte OpenOffice, pour les tableurs OpenOffice, pour les présentations OpenOffice. Et après, pour les autres, je ne sais plus. Mais enfin bon. Albi n'a pas une démarche complètement décalée. Non. Albi a une démarche très saine, que j'applaudis, d'une part, et qui en plus s'inscrit dans une réflexion générale sur les formats de données.
Par rapport à ça, donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'Assemblée nationale, maintenant, est sous Linux, il faut le savoir. Donc là, tous les députés sont censés, au moins, vaguement, c'est ça. S'ils n'utilisent pas une BlackBerry, je pense. Vous risquez. Mais bon, il y a vraiment une démarche. Et l'Adulac a développé une propre solution pour, par exemple, pour permettre les échanges immatériels de données, de fichiers entre les différentes administrations, entre l'État et les collectivités. Donc il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et il y a, avant, ils auraient utilisé, il y a un système qui a été développé par la Caisse des dépôts, qui a proposé une solution propriétaire payante pour permettre de dématérialiser ces échanges, qui est une obligation faite par l'État. Donc c'était toutes les collectivités doivent respecter ça. Et ce que donc ça s'appelle FAST. Et de l'autre côté, la Dulac pour répondre à ça a inventé un projet qui s'appelle SLOW. Et le but c'est justement de proposer le même outil mais libre. C'est-à-dire qu'il est développé directement. Bon, là, c'est un peu plus complexe dans le détail, mais qui est développé directement par une association pour les collectivités. C'est pour donner un exemple, par exemple, du côté national, qui se forge dans ces décisions et qui, quelque part, finira par toucher ces livres.
Public, puisque tu parlais de l'Assemblée nationale, juste, je veux vous mettre en garde. Si vous lisez la presse, vous allez lire beaucoup d'échos globalement mauvais. C'est la catastrophe. L'Assemblée nationale est passée au libre et plus rien ne marche. Notre État est en panne. Bon, nous avons parmi les permanents de l'April une personne en charge des relations institutionnelles qui est au quotidien avec notamment les députés et les sénateurs. Et les échos qu'elle a localement sont totalement différents. Certes, il y a quelques petits problèmes, comme dans toute migration, qui progressivement se corrigent, mais globalement, ça se passe très très bien. Et ce que vous pouvez voir dans la presse n'est qu'une action de communication entamée par les éditeurs propriétaires qui forcément voient cette migration d'un très mauvais œil. Donc, il mène une campagne actuellement relativement intense dans les médias de dénigrement, mais ne la croyez pas et renseignez-vous auprès de vos députés ou auprès de leurs assistants parlementaires et vous verrez que globalement ça se passe très bien.
Je pense que par exemple, on voit la différence sur le rôle de l'April, qui est plus un rôle d'association, qui est justement là pour faire l'interface auprès des ministères, des décisionnaires. La DULAC, c'est une association du développeur et utilisateur. Donc, c'est ceux qui décident d'utiliser, d'adhérer à la DULAC qui en profitent, et c'est les collectivités. Donc, en fait, c'est pas obligatoirement les ministères ou l'État, c'est plutôt les villes, les collectivités locales, donc c'est vraiment une autre démarche. Alors que pour l'interface plus globale, c'est les associations oui. justement comme l'April qui interviennent.
Nous sommes en relation avec un certain nombre de ministères. Il n'y a pas de généralité. Vous avez, pour des raisons variées, des ministères qui sont très moteurs. Vous avez par exemple l'armée. Qui est très motrice parce qu'elle voit dans le libre. Tout à l'heure, Thomas parlait d'indépendance. Ce qui est vrai en termes, enfin pour un particulier, est encore plus vrai pour une entreprise et encore beaucoup plus vrai pour une armée qui doit pouvoir compter sur son système d'information, notamment en cas de guerre. Si jamais, quand vous dépendez de technologies étrangères, c'est toujours risqué. Donc là, il y a une notion d'indépendance, de suprématie nationale qui compte beaucoup. Et donc, l'armée, chose amusante, l'armée était pendant un temps simple utilisatrice, puis prescriptrice, et maintenant, elle contribue au développement de solutions libres. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Thunderbird, l'armée a financé le développement d'une extension de Thunderbird qui s'appelle Millimail et qui vise à implémenter des protocoles de sécurité qui ne sont pas implémentés nativement dans Thunderbird. En fait, je pense qu'à terme, Millimail va être intégré à Thunderbird. Voilà. Et c'est l'armée française qui a financé le développement de Millimail. Vous avez ministères comme l'agriculture, par exemple, qui ont passé leur infrastructure sur Linux. Les finances aussi sont en train de se poser pas mal de questions. Et à côté de ça, vous avez quelques ministères qui ont une attitude un peu autiste ou calamiteuse, je ne sais pas, voire schizophrène, parce que selon les interlocuteurs que vous avez des sons de cloche complètement différents. Et l'éducation nationale fait partie des grosses institutions qui, selon les interlocuteurs que vous avez, vous disent blanc ou noir. Comme vous parliez de l'éducation nationale, il est très très dur d'obtenir une position de l'éducation nationale. Vous avez des gens au sein de l'éducation nationale qui sont parfaitement sensibilisés au libre, qui connaissent toutes les problématiques connexes comme les standards ouverts, qui comprennent que c'est une chance pour la libre diffusion du savoir, pour l'émulation, C'est un modèle à montrer. Et à côté de ça, vous avez quand même pas mal de lobbying de la part d'éditeurs propriétaires qui font que peu de choses bougent dans les faits.
C'est un sujet sur lequel j'ai des opinions. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai des opinions. Effectivement, quand tu parlais du rôle des éditeurs propriétaires en matière d'éducation nationale, c'est effectivement aussi quelque chose qu'on ressent très fortement. C'est-à-dire qu'il y a des gros éditeurs en France qui sont bien implantés dans le monde du livre, mais aussi souvent dans le monde du logiciel, et qui font évidemment qui freinent des deux mains et des deux pieds pour pas que des solutions libres soient adaptées dans l'éducation. J'ai eu aussi ce type de remarque sur le Brésil, où là aussi il y a des éditeurs qui avaient commencé à développer des solutions des logiciels éducatifs en brésilien sur Windows, et le gouvernement brésilien est très très favorable aux solutions sur Linux, et avec soit à travers des projets comme OLPC dont tu m'as parlé tout à l'heure, soit en équipant les écoles avec Linux. Et il se trouve qu'effectivement les éditeurs professionnels qui avaient déjà investi dans des solutions sur Linux et qui sont forcément des interlocuteurs avec le gouvernement en disant ben, nous on est là, ben, nos logiciels on va pas pouvoir les vendre, les gens vont pas pouvoir les utiliser puisqu'ils sont sur Windows. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Ils sont obligés aussi de tenir compte de l'écosystème qui navigue autour de l'éducation nationale pour que tout le monde puisse manger un petit peu. Donc ça freine partout. Il y a déjà des éditeurs. Dans les pays où il n'y a pas de logiciels éducatifs qui ont été développés, où il n'y a pas cette économie, que ce soit Linux ou Windows, là ça passe beaucoup plus facilement sur Linux. Il y a moins de difficultés. Je sais pas pour les banques, j'ai pas eu d'écho, mais par exemple pour ce qui est le système boursier, les grandes bourses semblent adopter de manière assez rapide des solutions basées sur Linux. Ce qui les intéresse beaucoup, c'est la qualité des systèmes, il y a la fiabilité et les aspects temps réel sur les transactions qui leur permettent d'atteindre des niveaux de fiabilité qu'ils ne pouvaient pas avoir avec les systèmes précédents, que ce soit Unix ou Windows. Donc mais dans les banques, ils utilisent beaucoup de mainframe, des solutions un petit peu des gros systèmes qui existent depuis les années 60 ou 70, et ils ont des gros problèmes de migration. Ils se retrouvent effectivement prisonniers de leur mainframe souvent. Ils payent très très cher des systèmes propriétaires. Et c'est pas évident, déjà ils n'ont pas fait la migration souvent à Windows, parce qu'il y a des systèmes centraux, quoi. Alors la migration Linux, c'est... déjà ils ont raté une étape, quoi.
Je suis intervenu pour le compte de plusieurs banques et assurances, et sur le poste client, je crois que vous allez avoir encore pendant longtemps du Windows. Par contre, leur infrastructure bascule de plus en plus sur des solutions libres, et simplement pour une raison: ils ont accès au code et ils peuvent le faire auditer par des gens comme moi et vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Lorsque vous utilisez un logiciel et que par jour des dizaines de milliards d'euros transitent, si jamais ce logiciel est corrompu, enfin s'il y a une faille et que quelqu'un détourne, c'est le jackpot pour eux. Enfin pour ceux qui détournent. Voilà. Donc le libre au niveau de l'infrastructure séduit beaucoup. Bon, comme le dit Bruno, il y a un historique et un passif qui ne sera pas épongé d'ici peu. Mais par contre, bon, dans les agences, je pense que pendant longtemps, vous allez encore avoir du Windows, parce que les licences, après tout, les banques ont de l'argent. Donc, elle est payée.
Par contre, pour ceux qui n'ont pas de... Pour voir la qualité des systèmes aussi, bon, c'est difficile de migrer, le coût de migration est souvent très important, quel que soit le système, de là où on vient, ça coûte très cher, mais il y a des solutions, des nouveaux systèmes dans les nouveaux acteurs de la nouvelle économie, comme dans le domaine bancaire, c'est par exemple il y a PayPal, qui est un système de paiement en ligne qui est très 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 démocratisé, et toute leur solution est basée sur Linux. Et en réalité, les opérations qu'ils ont amenées, l'infrastructure, même si ce n'est pas une vraie banque avec des guichets et tout ça, tout le cœur de leur système,
ils font les mêmes types d'opérations, ils ont les mêmes contraintes, à la fois fiscales et à la fois juridiques, d'une banque, et tout leur système fonctionne sur des systèmes Linux. Donc la qualité du système aujourd'hui est là, mais après pour migrer de son mainframe à Linux, ben, c'est très très compliqué.
Des économies d'échelle qui sont impressionnantes aussi, hein. C'est-à-dire quand vous avez, justement on parle d'un serveur Linux, donc vous connaissez tous le principe, donc on peut brancher des ordinateurs ensemble et via le serveur, on pose des données dessus, on les récupère en fonction de ce qu'on veut faire. Et ça vous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher d'avoir un serveur Linux que d'avoir un serveur Windows, par exemple. Donc après, quand vous êtes une grande banque, quand vous êtes une grande institution, il y a quand même, c'est une économie d'échelle assez impressionnante. Hein, quand vous passez, donc il faut voir, c'est la motivation, c'est aussi une motivation financière, hein, sur une grande partie. Même si elle est modérée par, justement, les coûts après d'immigration ou tout ça, mais il y a quand même, c'est quand même important.
Pour la motivation financière et pour rester dans les collectivités territoriales dont nous parlons, je vais vous donner un petit exemple. Au début des années 2000, la ville de Paris a lancé un appel d'offres pour renouveler son parc logiciel. Et une vingtaine de personnes, dont moi, ont écrit une lettre collective ouverte à la mairie de Paris, leur demandant « Avez-vous envisagé le logiciel libre comme alternative ?» Lorsque Microsoft a eu connaissance de cette lettre, elle avait déjà envoyé une proposition à la ville de Paris. Elle a spontanément émis une seconde proposition où elle a diminué la facture de 16 millions de francs. 16 millions de francs. Parce qu'en fait, il était devenu stratégique pour eux de ne pas perdre des villes. Ouais. Donc, ça vous donne une idée des budgets monopolisés au niveau d'une ville par des licences d'outils propriétaires, sachant que ben, cet argent c'est quand même votre argent, c'est l'argent des contribuables, et que des logiciels libres pour 95-99% des besoins remplissent parfaitement. Enfin, remplissent aussi bien la tâche. Après, comme l'ont dit certaines personnes tout à l'heure, il y a des manques encore dans certains métiers. C'est pour ça qu'il y a des projets comme Open Cimetière et tout ça. Je pense qu'il y a encore des besoins, certains peut-être besoins de mairie qui ne sont peut-être pas encore satisfaits, mais avec le travail de la Dulact et d'autres acteurs économiques, nul doute que d'ici quelques années, ces besoins seront comblés et qu'il existera des solutions libres.
Après, voilà, c'est-à-dire que la démarche maintenant du logiciel libre est considérée politiquement comme une démarche de développement durable, parce qu'on développe des applications pour le bien-être collectif et qui vont évoluer en permanence et qui vont être redistribuées à l'ensemble des collectivités. Donc il y a vraiment une démarche de continuité, une démarche d'appropriation de la technologie, c'est-à-dire le logiciel, une démarche d'amélioration continue. Et j'allais dire, l'argent qu'on met pas dans ce logiciel à la rigueur, ou alors qu'on développe à ce moment-là, mais qui va être mutualisé, il va servir à améliorer la vie en collectivité. 16 millions de francs, ça a permis peut-être de faire beaucoup, beaucoup d'autres choses à l'intérieur de la ville, quoi. Et là où on peut dire au fond aux éditeurs, oui mais là vous avez la pauvre entreprise éditrice de logiciels propriétaires qui a développé son logiciel et là vous lui piquez le marché sous le nez, ils ne peuvent pas rentabiliser. Pour donner un chiffre, Microsoft sur le pack Office, c'est 80% de bénéfices. C'est-à-dire quand vous vous payez, dans l'économie du logiciel, qui est une économie particulière, l'économie le plus important, c'est le développement, qui coûte très très cher. Mais une fois qu'on a développé, ça coûte la multiplication. Quand vous achetez, ça ne coûte rien par rapport à d'autres technologies dans d'autres secteurs où la multiplication coûte. Ce qui veut dire que quand vous avez des grandes entreprises qui vous font payer des licences 700 euros, donc le pack office classique pour une entreprise, qui les vendent à des millions et des millions d'exemplaires dans le monde et qui justifient ce prix-là, et qu'après ils disent oui mais nous on a travaillé, OpenOffice va nous piquer du marché, d'accord, mais eux ça fait très longtemps qu'ils l'ont rentabilisé. C'est quand même la seule entreprise au monde qui fait 70% de bénéfices sur des produits en moyenne. C'est impossible ailleurs. Si vous faites 20% dans une entreprise normale, voilà. Donc il y a aussi ce côté de la mauvaise foi peut-être de certaines entreprises qui a provoqué aussi encore plus l'importance du libre. Parce qu'on peut, il y a des solutions qu'on peut appliquer à des endroits et pas à d'autres. Et l'informatique est justement un secteur sur lequel le libre peut exister facilement parce qu'il y a des économies d'échelle qui sont assez impressionnantes.
Je ne sais pas s'il reste des questions, on pourra peut-être passer à la troisième intervention de Jean-Louis Foucault, puis on pourra poursuivre la discussion à l'issue de l'intervention.
Question pendant qu'il recherche.
Intéressant dans la démarche politique, c'est que les personnes qui soutiennent le libre sont vraiment, ils ne sont pas marquées politiquement. C'est là quand vous regardez les soutiens, vous avez vraiment, il y a une sorte, c'est plus ou moins vrai, on va dire, en fonction du niveau de compréhension justement de la technologie, parce que des fois c'est l'incompréhension de la spécificité du marché de l'informatique qui donne des comportements, on va dire, ou des réponses face à des appels, on va dire. Et ce serait intéressant, par exemple, de lancer un grenelle des fois sur ce genre de choses, pourquoi pas, parce que je pense qu'il y a un besoin de discuter, d'autant que le logiciel libre, par nature, c'est pas un milieu de communication, c'est pas un milieu de marketing, c'est pas un milieu de vente, parce que on voit bien que c'est... voilà, nous, ce qu'on peut faire, c'est venir vous voir et discuter avec vous comme ça. On va pas vous faire de la pub, on va pas faire des pro-lobbying financiers auprès des élus, on va pas répondre aux appels d'offres, alors qu'en face, c'est légitime ce qu'ils font. Alors, on ne sait pas en quoi ce qu'ils font, mais on n'est pas dans la même cour. Mais c'est... donc en face, il y a une grosse communication. Donc, dire que... je sais pas si l'ère du libre, en tout cas, pour l'instant, il a été beaucoup freiné par les industriels qui développent du propriétaire. Et je pense qu'aujourd'hui, le pas, il n'est pas encore définitif.
Oui, toujours dans ce débat-là, nous, donc, on est une association, on est labellisée Cyberbase. Donc, les Cyberbases, l'appellation Cyberbase appartient à la Caisse des dépôts et consignations. Hein, donc, notre Cyberbase à nous, elle a bientôt 4 ans. Au départ, nous a obligés de prendre effectivement des logiciels ayant des licences commerciaux, Microsoft, etc., référencés comme tels. À l'heure actuelle, les cyberbases qui se montent à l'heure actuellement, que ce soit dans les Pyrénées ou ailleurs, puisque c'est un réseau national, sont complètement encouragés
à privilégier ces solutions libres. Donc il y a quand même une avancée en quelque part 2-3 ans autour des cyberbases, autour aussi des décideurs qui ont donc décidé de mettre en place ces accès à la population que sont les cyberbases notamment, à encourager en fait vers ces solutions libres. Donc il y a quand même des démarches, une évolution, même au niveau politique. On a eu des illustrations hein, autour de l'administration française, mais au niveau aussi de l'Assemblée nationale. Donc il y a un courant qui est là, qui est en train de se monter. Il y a des évolutions quand même qui sont présentes et on en est un exemple. Merci.
Peut-être que le contenu que l'April a rédigé pour le portail des cyberbases a fait évoluer un peu les mentalités.
Je voulais réagir sur les cyberbases et leur mouvement vers le logiciel libre qui me semble effectivement très intéressant. Mais aujourd'hui, ils vont rencontrer une difficulté qui est que la plupart du public des cyberbases vont aller acheter un ordinateur dans une grande surface ou dans un grand magasin spécialisé sans donner de nom. Et à l'heure d'aujourd'hui, tous ces ordinateurs seront livrés d'office avec un système d'exploitation propriétaire dont vous ne connaîtrez pas le prix, mais dont vous paierez bien la licence en achetant l'ordinateur. Donc on vous oblige à acheter ce système d'exploitation que vous ne souhaitez pas forcément avec un ordinateur. Donc cette vente liée entre le système du logiciel et le matériel, l'ordinateur, est illégale, d'une part. Mais l'État, la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, ne fait rien à ce sujet depuis des années, malgré les appels plus qu'insistants de la communauté du libre. Et pourtant, cette vente-lier est un frein très 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 important, à mon sens, au développement du logiciel libre, et en particulier du système d'exploitation GNU Linux auprès du grand public. Parce que la personne qui va acheter un ordinateur, elle revient à la maison, elle appuie sur le bouton et immédiatement tout est installé et tout fonctionne. Alors que pour passer à Linux, ben là, il faut une démarche volontaire de prendre un système, le mettre en place, etc. Donc là, il y a des groupes d'utilisateurs, même dans les cyberbases, des choses qui se mettent en place pour aider les gens à faire ce pas-là. Et il y a un pas à faire qui n'est pas négligeable. Installer un système sur l'ordinateur, ça prend quelques connaissances, l'aide d'autres personnes éventuellement. Alors que si le système était préinstallé, les choses seraient beaucoup plus simples s'il y avait du choix pour les acheteurs de nouveaux ordinateurs dans les magasins. Donc là-dessus, il y a les associations nationales AFUL et APRIL qui sont particulièrement mobilisées sur ce sujet depuis un bon moment déjà, mais les récentes déclarations du secrétaire d'État à la consommation restent très inquiétantes. Donc l'issue de ce dossier encore connu aujourd'hui, mais on espère une évolution favorable. Mais en l'état aujourd'hui, c'est vrai que le public des cyberbases est demandeur. Les gens ont acheté un ordinateur avec tel système d'exploitation propriétaire et telle suite bureautique propriétaire et veulent des initiations sur ces logiciels-là, veulent retrouver ces outils-là dans leur lieu d'accès à Internet. Et donc ça pose effectivement peut-être un souci de décalage entre les demandes des usagers et ce que l'offre des cyberbases. Mais bon, il faut peut-être bien casser le cercle vicieux un moment ou un autre. Alors donc, Bruno m'indique de parler d'une formation qu'on va proposer, donc nous, Association Tout Libre, qu'on va réaliser jeudi pour les animateurs de cyberbases de la région Midi-Pyrénées. Donc pendant une journée, on aura former une dizaine d'animateurs de cyberbase au système d'exploitation du Linux pour qu'ils se familiarisent avec l'installation de ce système, son utilisation, etc. Pour qu'ils soient un peu plus familiers avec ce système et puissent plus facilement le proposer sur leurs espaces et le proposer à leurs usagers. Voilà, c'est une initiative qu'on essaie de mettre en place au niveau de Tout Libre en collaboration avec l'Ardésie.
Si la présentation est prête.
J'ai seulement pas la présentation sur ma clé USB, donc je vais la faire en live. J'en ai une, mais c'est une vieille. Je suis le local de l'épreuve, puisque je suis du Gers. Je travaille à Auch, j'y suis enseignant dans une école. Et J'ai découvert les logiciels libres il y a peu de temps, finalement, il y a 3 ans, à la suite d'une conférence à Auch, qui est animée par Pierre Charillon. Et pourtant, j'utilise l'ordinateur depuis 1980, donc ça fait déjà un petit bail, mais j'ai été victime des sirènes outre-Atlantique. Donc, je ne cacherai pas qu'au départ, il m'a fallu quelques temps quand même pour passer vraiment au logiciel libre, mais aujourd'hui, je n'utilise plus du tout Windows. Mon métier a fait que je suis allé dans plusieurs écoles et que j'ai constaté la pauvreté du matériel. On y trouve encore couramment des Pentium qui fonctionnent à 130 MHz, si ça vous dit quelque chose. Donc, ils sont absolument plus, enfin, qui ne fonctionnent plus d'ailleurs à 130 MHz. Et peu de choses pour les enfants en particulier, mais pas uniquement, mais en particulier dans les campagnes. Et j'ai rencontré une solution qui était Abuledu avec Jean Perratou qui est, je sais plus, était en train de la présenter. Et j'ai commencé par installer ça, mais en gardant des clients lourds sous Windows. Si c'était pas bien. Puis j'ai, pour différentes raisons techniques, ça ne m'a plus convenu. Et j'ai rencontré des gens qui développent sur leur temps libre, des parents d'élèves, d'autres personnes, qui développent une autre solution du même principe pour les écoles, tournée exclusivement pour les écoles. Et je l'ai testé dans une école, ce qui m'a permis, dans une architecture client-serveur, d'avoir des terminographies qui tournent sur des vieux postes. Donc une démarche à la fois aussi de récupération, utiliser du matériel qui, bien qu'obsolète, peut encore servir à quelque chose. Ça, c'est mieux que de le jeter à la poubelle, etc. Et pour pouvoir installer ceci dans une école, puisqu'il y a quand même des frais, je dis des cartes réseau, tirer des câbles, des switches, etc. J'ai monté une association qui s'appelle Ariane, Ariane Formation et Informatique Libre, entre autres pour pouvoir faire financer ça par les mairies. Voilà, c'était un support, mais j'ai voulu, en créant cette association, l'orienter vers les écoles, les petites associations et la formation des gens. Donc ce qui m'a amené à participer aussi avec le concours des mousquetaires, c'est-à-dire des utilisateurs de logiciels libres sur le GERS, à animer des formations. On en trouve ici régulièrement. Il y avait des formations le mardi soir d'initiation au logiciel libre. On a des rencontres au niveau de Linux une fois par mois. Et voilà pour la partie formation. J'ai aussi l'aspect installation de matériel et de logiciel. Comme ça, vraiment sur les écoles, sur des associations, des CLAE, des choses comme ça. Et à l'heure actuelle, il y a eu quatre projets qui ont été menés à terme à l'école de Seyssan, avec l'installation de 16 postes pour les enfants et avec un serveur. Des postes installés en fond de classe qui permettent aux enfants d'y aller facilement. Une autre installation à l'école de Lavardins, dont je vois la directrice là-bas au fond, avec 6 postes installés pour les enfants. Et tout ça à partir de matériel relativement obsolète. Par contre, je me suis très vite aperçu qu'il était absolument nécessaire de former les enseignants à l'utilisation de ces solutions. C'est pas tellement que leur utilisation soit spécifique, mais c'est que les enseignants n'ont pas été formés à l'informatique. Donc déjà, double clic ou copier-coller, c'est pas forcément évident. Donc j'anime aussi, toujours dans le cadre de l'association Ariane, des formations mensuelles avec des enseignants sur une autre école, l'école de Mielan, depuis 3 ans. Et on commence à maîtriser un petit peu leur sujet. Et Donc voilà, donc cette association de l'objectif installer des systèmes, donc on a une démonstration là, dans le hall d'entrée, former les gens et les aider à mettre en place leurs projets. Pour certaines écoles, j'ai aidé à la mise en place de sites internet, de sites conjoints entre un CLAE et une école, donc avec formation des personnels du CLAE. Et aussi la mise en place d'un site pour un club équestre, avec formation des personnels, donc des patrons et des moniteurs et monitrices qui en font partie. Donc voilà un petit peu l'objet de l'association et le but, et c'est vraiment de rentrer ici dans la réalisation. Il y a tout l'aspect éthique, mais qui est ma réflexion personnelle et que j'essaye de faire valoir auprès des gens que je rencontre. Mais moi, je passe par des réalisations. Les conférences sont là aussi pour rencontrer des gens, pour la visibilité et tout ça. Mon message, il est plus venir avec des machines, installer, discuter, voir ce qu'on peut faire, et en fonction de ça, installer des projets. Ça peut être tout simplement la mise en place d'un site, ça peut être apprendre à utiliser un traitement de texte, à ne pas formater un peu l'espace. Voilà. C'est vraiment des choses très, très basiques au départ. Et bien qu'utilisant Linux, j'y connais peu de choses. Mais il y en a d'autres qui connaissent, et c'est là toute la richesse aussi du logiciel libre, où par le biais de listes de diffusion, de forums de discussion et tout ça, on trouve toute une communauté à la fois autour des logiciels, à la fois autour de Linux et des matériels qui vont avec. Mais je ne suis absolument pas un technicien de Linux, je suis un utilisateur du matériel. Bon, je sais installer, il y a des choses que je sais faire, mais quand je ne sais pas faire, je fais un petit mail et c'est bien rare qu'on n'ait pas une réponse très rapide, des fois dans la minute. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est si vous avez des projets, si vous avez des envies par rapport à ça, il y a des endroits, même dans le Gers, où on peut faire où on peut rencontrer des gens qui se dévouent, parce que moi, je suis sur une association, mais il y en a d'autres qui interviennent ici régulièrement dans ce local, qui sont là uniquement sur leur temps libre et sur leur foi dans la chose Linux, dans le logiciel libre. D'ailleurs ici, quand je dis Linux, pour moi c'est pas Linux et logiciel libre, ça va bien ensemble, ça c'est sûr. Mais il y a aussi logiciel libre sous Windows. D'ailleurs, sur d'autres, mais là je connais encore moins. Donc si vous avez aussi des questions, des choses comme ça.
Je tiens à dire de très important, c'est le mot « je ne suis pas un informaticien », non plus j'en suis pas un, et donc on peut utiliser les logiciels libres, on peut utiliser Linux, en n'y connaissant rien à l'informatique, comme on fait tous avec Windows. Déjà à la base, on n'est pas des informaticiens pour utiliser Windows. Donc, voilà, c'est juste, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de révolution quand on passe au libre. C'est pas une révolution, c'est, pour l'utilisateur, c'est un nouveau mode, une nouvelle façon de découvrir quelque chose qu'on savait déjà.
Alors, je vais mettre un bémol. Non, parce que je n'aime pas promettre la lune. Donc, ce que vous promet le libre, c'est plus de liberté, plus de maîtrise de votre outil informatique, plus de pérennité de vos données. Mais, si le libre n'est effectivement pas si complexe d'accès qu'on veut bien le dire, et il nécessite un minimum d'apprentissage, un minimum de changement de vos habitudes. Essayez, vous verrez que l'effort n'est pas ardu, mais je ne vais pas vous dire que demain, vous saurez tout faire sous Linux, comme ça, juste parce que vous aurez passé une bonne nuit de sommeil. Bon, ça demande un petit peu d'effort, mais essayez, vous verrez. C'est vraiment pas compliqué, et comme le disait tout à l'heure, Jean-Louis, voilà. les fonctions, elles existent. Le petit icône n'est pas toujours le même. Ce n'est pas toujours au même endroit dans le menu, mais un traitement de texte reste un traitement de texte et vous allez voir que très vite, vous allez vous y retrouver. Et vous aurez fait un petit effort, mais surtout, au fil du temps, vous allez vous apercevoir que vous avez gagné beaucoup de liberté, beaucoup de pérennité dans vos données. Un petit exemple, parce qu'on a beaucoup parlé de liberté, mais on n'a pas beaucoup parlé de format ouvert et de pérennité de données. J'ai rencontré il y a quelques années une prof de droit qui était à l'époque au Conseil d'État et qui avait écrit un bouquin 10 ans avant. Puis, juste au moment où je l'ai rencontré, elle était en train d'écrire un nouveau bouquin et elle a voulu prendre dans son nouveau bouquin des extraits, se citer elle-même. Et donc elle a voulu prendre le fichier dans lequel il y avait manuscrit de son ancien bouquin et le lire sur son ordinateur. Et là, grosse déconvenue, aucun des logiciels qu'elle avait sur son ordinateur et aucun des logiciels qu'on a pu lui indiquer n'était capable de lire le fichier qu'elle avait écrit 10 ans auparavant. 10 ans, c'est court. D'accord, c'est une photo, 10 ans après on aime la revoir, un texte qu'on a écrit, si vous en écrivez de temps en temps, on aime l'écrire, une musique, pareil, l'écouter. 10 ans, c'est vraiment pas grand chose. Eh bien, 10 ans après, aucun des logiciels n'était capable de lire ce texte. Elle n'a eu qu'une seule solution, ça a été de scanner son ancien bouquin, un exemplaire papier de son ancien bouquin, de passer dessus un logiciel d'OCR et de faire les ajustements qui s'imposaient par la suite. Ça n'a qu'une seule origine, c'est ce qu'on appelle les formats propriétaires et formats fermés, non documentés. Le libre, comme le libre n'est pas d'une part en position de force, il ne peut pas imposer des formats spécifiques. Par ailleurs, comme il est basé sur le mode de la coopération, de la mutualisation, du partage de connaissances, il n'a strictement aucun intérêt à prôner un format particulier. Donc le libre s'appuie sur des standards. Et quelle est la différence? C'est que par exemple, parmi ces standards, vous en avez un pour l'écriture de documents qui s'appelle TEC, LaTeX, qui est ce qu'il est. Mais une thèse qui a été écrite avec LaTeX il y a 30 ans est toujours lisible aujourd'hui. Et vous pouvez toujours imprimer le document ou le corriger. Voilà. C'est la grande différence entre libre et propriétaire. Enfin, c'est l'une des grandes différences.
Je voudrais faire une petite remarque. Moi, je suis pharmacien biologiste, je travaille à l'hôpital, et donc de formation, je suis pharmacien. Je vais faire un parallèle entre le logiciel et le médicament. Il y a 20 ans, quand je faisais mes études, mes professeurs me disaient « Le médicament générique, c'est une horreur, parce que c'est une copie du médicament, ça va tuer l'industrie pharmaceutique. » Et vous vous rendez compte, les industriels font des travaux de recherche énormes. Un médicament, ça coûte très très cher à mettre au point, donc c'est normal qu'on les paye très très cher. Ça, c'était il y a 20 ans. À l'époque, on commençait à parler du médicament générique. Maintenant, on a complètement changé d'optique. Maintenant, on sait que, bien sûr, un médicament, ça coûte cher à mettre au point, mais on admet que après 20 ans, l'entreprise a fait ses bénéfices. Au bout de 20 ans, on a le droit de faire ce qu'on appelle les copies génériques. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui n'a pas entendu parler des médicaments génériques? Non. Bon, le médicament générique, actuellement, il y a même des lois. Je ne crois pas me tromper. Je suis pas pharmacien d'officine, hein, je suis biologiste maintenant. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a maintenant des lois qui incitent, voire qui obligent dans certains cas, le pharmacien à remplacer du médicament classique par le médicament générique. Et bien, je pense que pour le logiciel libre, d'une certaine façon, c'est un petit peu la même chose. Il peut sembler choquant qu'un logiciel puisse être à très bas prix, voire gratuit, pratiquement tout le temps, et qu'on ne paye que du service, alors que ce médicament finalement copie une solution propriétaire. Mais dans de très nombreux cas, on peut quand même admettre que si on peut avoir un logiciel libre, ça peut parfaitement être justifié. Voilà.
Ça relève un point juridique par rapport à la... C'est un très bon exemple, je crois, au niveau justement des coûts de base et après des coûts de duplication qui sont inférieurs. C'est vrai que l'industrie pharmaceutique a la même problématique, j'allais dire. La différence vraiment, là, on rentre pour ceux qui aiment bien le juridique, c'est que dans le médicament, vous êtes dans le brevet, alors que dans le logiciel, vous êtes dans le droit d'auteur. C'est-à-dire que vous avez 20 ans, nous, on a 70 ans post-mortem, après la mort du créateur du logiciel. Donc c'est pour ça que le logiciel libre n'est pas une copie du logiciel privé, parce que Bill Gates est encore vivant, et tant qu'il sera vivant, dans 70 ans, bon là c'est un peu schématisé, mais 70 ans après sa mort, ça sera le seul à avoir le droit de copier et dupliquer. Ce qui veut dire que le logiciel libre, c'est un autre médicament qui a les mêmes propriétés curatives, voilà, si on devait comparer vraiment. C'est pas une copie. Parce qu'eux, ils protègent énormément, il faut voir les procès que font Micro. Ils protègent énormément le droit. Mais par contre, dans l'état d'esprit, c'est vrai que c'est proche.
Moi, je voulais poser éventuellement un débat autour de la sécurité, en fait, sur le libre par rapport à Microsoft. Enfin, à l'heure actuelle, c'est une pollution. Sur Internet, etc. On parle de virus, des choses très très agressives autour de support qu'est l'informatique, en tout cas, on s'en sert. Donc, on est obligé de se barder de pare-feu, de logiciels antivirus, de mise à jour, etc. Quand on est sur une solution Windows, sur le libre, sur le système d'exploitation, sur le logiciel libre. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être un parallèle? C'est plus sûr, c'est moins sûr, il y a les mêmes problèmes, peut-être que c'est... Voilà, cette question est autour de ça. Voilà, et juste, parce que je dois vous dire, voilà, on a encore 10 minutes maximum, et s'il n'y a pas d'autres questions, après on ira voir sur les démonstrations ce que vous avez illustré dans vos propos.
Alors la question de la sécurité, c'est une question assez difficile. Pour ce qui concerne les logiciels, ce qu'on appelle les logiciels espions, ou même les virus, etc., aujourd'hui, c'est vrai que quand on n'utilise pas les logiciels libres sous Windows, puisque là le système reste identique, reste vulnérable à ce type de choses, donc là les logiciels libres pour Windows n'apportent rien. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on utilise le système libre que Linux, on n'a pas besoin d'antivirus, on n'a pas besoin de pare-feu, on n'a pas besoin de logiciels de détecteur, de spyware et autre chose comme ça. Mais il faut voir que, a priori, même si la plateforme sur l'aspect technique est un peu mieux conçue sur le plan de la sécurité, l'utilisateur reste derrière l'ordinateur. Et si l'utilisateur, quand quelque chose se base sur un ordinateur valide, sans regarder de quoi il s'agit ou sans prêter attention au logiciel qui s'exécute, a priori rien ne s'oppose à ce qu'un virus ou un spyware s'installe sur un ordinateur équipé de logiciels libres. Le fait qu'aujourd'hui il n'en existe pas ou suffisamment peu pour que personne n'y prête attention, c'est probablement lié à la part de marché faible de Linux sur le poste de travail. Mais il y a fort à parier que si cette part de marché venait à augmenter, et je ne doute pas qu'elle augmentera, ce type d'attaque viendrait à arriver. Donc après, il y a effectivement des parades technologiques pour essayer de limiter ce type de problème de sécurité. Mais dans la mesure où l'utilisateur restera derrière l'ordinateur, et dans la mesure où il y aura encore et toujours des failles de sécurité dans les logiciels, le logiciel libre est intéressant du point de vue des failles parce qu'il y a une réactivité importante au niveau de la correction, etc. Donc c'est un atout quand même du logiciel libre, mais ça n'en reste pas moins des logiciels qui ont des failles, qui sont utilisés par un utilisateur qui ne comprendra pas forcément exactement les manipulations qu'il fera, etc. Et donc qui pourra être amené à exécuter des logiciels qu'il n'aurait pas fallu exécuter. Donc d'un point de vue strictement technique, rien ne s'oppose à ce que des virus existent pour le système d'exploitation de Linux, même si aujourd'hui et encore pour un bon moment, je pense, cette menace est écartée. Et personnellement, je ne pense pas que les personnes autour de la table qui utilisent Linux aient besoin d'un antivirus ou d'autres choses comme ça. Alors Sébastien souhaite compléter.
Oui, il y a quelques, quand même, quelques différences. C'est que effectivement, déjà à la base, le socle technique est d'une qualité supérieure, donc on a même moins de problèmes. Ce que dit Thomas est probablement vrai, plus il y aura de gens qui utilisent des logiciels libres, plus ça tentera de pirates, de gens de la mafia, de détourner les systèmes à leur profit. Mais quand même, il y a plusieurs choses à prendre en compte. En 2005, Firefox a déclaré, a annoncé 200 failles de sécurité. Internet Explorer, enfin Microsoft, en a annoncé 20 pour Internet Explorer. Donc Internet Explorer est quand même vachement plus sécurisé que Firefox. Enfin, ça, c'est le discours de Microsoft. Bon, maintenant, si on regarde le temps de correction, le temps de mise à disposition des correctifs, Internet Explorer a été, vous a exposé à des attaques en 2005 pendant 300 jours sur l'année. Firefox, au total, 40 jours. Voilà. Donc c'est quand même... on voit que là, la réactivité des développeurs du libre est infiniment supérieure à celle des éditeurs propriétaires. Et donc, si vous mettez à jour régulièrement votre système, vous êtes quand même globalement mieux à protéger. Par ailleurs, une entreprise, elle doit vendre des logiciels, enfin une entreprise qui se base sur un modèle de vente de licence, donc elle va rajouter tout un tas de fonctionnalités qui servent généralement à pas grand chose, mais qui la distinguent de la concurrence et qui lui donnent plein d'éléments pour le service marketing pour dire nous on est vachement mieux bien que les autres. Le libre ne s'encombre pas de telles considérations, il ne développe que les fonctionnalités utiles. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Vous prenez un logiciel comme Monet. C'est vachement bien pour gérer votre budget personnel. Savez-vous que par exemple, il y a des virus qui se greffent sur Monet, récupèrent les comptes, les informations bancaires vous concernant, et utilisent une fonctionnalité géniale de Monet qui est la possibilité de programmer des ordres de virement sur un compte tiers. De manière automatique, sans prévenir l'utilisateur. C'est Microsoft qui dit « Ouais, Monet, au moins, oui, vous pouvez programmer des ordres de virement et vous ne vous occupez plus de rien. Voilà. » Il y a des virus qui détectent la présence de Monet et déclenchent des ordres de virement automatiques sans que vous en soyez informé. Il existe des logiciels un petit peu équivalents à Monet dans le libre. Mais les développeurs de logiciels libres, ils savent que c'est une grosse bêtise de faire ça. Et jamais ils ne le feront. Ces logiciels existent depuis plusieurs années et aucun développeur de logiciels libres a encore eu l'idée de développer une telle fonctionnalité parce qu'il dit non je veux que ce soit l'utilisateur qui valide les virements. Alors éventuellement le prévenir quand il lance le logiciel qu'il y a des virements qu'il devrait faire, l'aider, d'accord, le faire automatiquement à son insu, non. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses et je pense que quand même globalement le libre et vous offre une sécurité bien supérieure au logiciel propriétaire et que ça restera vrai longtemps.